L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Bernard Hirmann, auteur et photographe, qui vient d'éditer un calendrier 2026 au titre de la Roberto signée Nature. C'est aux éditions Le Glaneur Édition. Bernard Hirmann, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous présentais en tant qu'auteur et photographe. Vous êtes auteur de différents ouvrages autour de la photo, auteur de la Roberto aussi. C'est un petit peu votre terrain de chasse privilégié. Et alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, photographe végétal, photographe animalier, ça c'est une expression qu'on connaît.
Oui, c'est photographe animalier ou photographe de nature, de la nature en général, oui.
Alors, comment est-ce qu'on devient justement photographe de la nature? Vous avez une formation de photographe au départ, vous êtes passionné de photos. Et à quel moment vous vous dites, bah, la nature, évidemment, on entend que le point de vue qu'on peut avoir sur la nature, il est multiple et qu'on peut photographier et saisir des moments magiques. Mais à quel moment on fait la bascule justement entre une passion pour la photo, c'est pas votre profession, on y reviendra tout à l'heure, et ce regard de photographe animalier?
En fait, ça a commencé il y a une quarantaine d'années maintenant. J'ai pas de formation de photographe en tant que tel. J'ai pas fait d'école ou de choses comme ça. J'ai vraiment appris sur le tas, comme on dit, ou en autodidacte. Et en fait, ça a commencé plus par l'observation. J'avais un ami qui avait une longue vue. Donc, c'est mieux que des jumelles pour voir des oiseaux. Et avant, pour moi, tous les oiseaux étaient gris. On voyait que les moineaux, les pigeons. Et avec cette longue vue, je voyais des martins pêcheurs, des huppes, enfin, des choses qui me paraissaient presque miraculeuses, presque comme des apparitions. Et donc, en les voyant, j'ai eu envie, je faisais un peu de photos, plus photos de rue, enfin photos un peu comme tout le monde, un peu en passant.
Mais toujours des photos de choses figées, pas de personnes. Alors la nature, c'est pas figé, j'entends bien. Mais de photographier les photos de famille, c'était pas votre intérêt particulier ou des photos de personnes, comme certains ont pu le mettre en scène?
Alors, si je rentre au fond de ce qui m'a poussé à faire de la photo, j'étais un grand timide, en fait, et la photo, c'était un peu une façon de m'exprimer, en fait, qui me permettait de m'exprimer quand même, en fait. Voilà, c'est une façon de s'exprimer qui est
presque
un peu silencieuse.
Presque une forme de thérapie, quoi.
Voilà, ouais, donc c'était plus une façon d'être présent au monde, en fait. Et après, la photo de la nature, c'est venu par après, et encore une fois, c'est vraiment l'émerveillement, en fait, qui a causé l'envie de prendre en photo la nature, et donc... Donc après, la photo de nature, on ne la fait pas en passant, on la fait souvent à l'affût. Enfin, c'est un peu pareil, on s'efface en fait pour assister au spectacle de la nature. Et c'est un peu ça ma démarche, c'est me faire oublier en fait par les animaux en général et être présent au monde en fait par ce biais-là, quoi.
Et vous étiez, vous, un observateur de la nature, un silencieux, un penseur? Alors vous vous dites au Glaneur Édition, justement, un glaneur de la nature, essayer de récupérer ce que la nature peut nous offrir.
Oui, c'est un peu ça. Le glaneur, ça me va bien, ouais, parce que c'est un peu prendre ce qui est là sans vraiment le cultiver aussi, ou sans vraiment le... C'est vraiment être attentif au monde et chercher des images.
La Roberto, alors ça c'est votre terrain de chasse. Alors évidemment la Roberto, on connaît le quartier strasbourgeois tout près des institutions européennes. C'est aussi une réserve naturelle, il y a la forêt de la Roberto, il y a les abords de l'île. Pour vous, c'est un terrain de jeu, grandeur nature, c'est déjà l'amour de l'endroit où vous vivez. Et c'est cette observation que vous avez fait d'un quartier strasbourgeois qui pourrait pas passer banal. Moi, j'y passe souvent à la Roberto, sur la route pour aller à Sainte-Anne, évidemment. Ça me paraît un quartier avec des habitations. Et vous avez su voir au-delà de ça et de toute cette richesse que ce quartier a su préserver.
Oui, c'est vrai que la Roberto, si on la découvre comme ça en passant, elle paraît pas, c'est pas toujours très beau, quoi. Je veux dire, la route de la Vonsonneau, la rue Beuclin, c'est pas spécialement une beauté architecturale à tomber par terre. Mais c'est vrai que quand on là, c'est plus le cas. J'ai fait un bouquin aussi qui s'appelle La Roberto côté village, mais en allant un peu dans les recoins, un peu en fait, il y a encore plein de petits îlots de nature qui sont urbanisés petit à petit, mais oui. Ça c'est quand même un quartier qui se densifie, même si je suis pas contre la densification non plus, mais bon, enfin c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que c'est un quartier qui recèle plein de petits trésors, plein de petits endroits secrets, et si on regarde un peu, pour un photographe, c'est un bon terrain de jeu. Et puis bien sûr, mon terrain de jeu, comme vous disiez, c'est la forêt de la Roberto, où je suis allé des centaines, peut-être un millier de fois, je ne sais pas trop, mais c'est vraiment mon lieu de ressourcement, en fait. Hein. C'est un peu un lieu de repli aussi par rapport au tumulte du monde, où là, c'est aussi un endroit où je vais me ressourcer comme... beaucoup de Strasbourgeois, en fait. Hein. Et c'est un endroit vraiment très riche en faune et en flore. Et je découvre toujours encore des choses. C'est un milieu qui est vraiment très, très fourni en faune et en flore. Et donc, on peut toujours faire des découvertes. Et puis, encore une fois, c'est toujours pour un photographe ce qui change. Même si on va toujours au même endroit, il y a toujours une lumière qui change, les saisons. Enfin, il y a tellement de déclinaisons possibles qu'il y a toujours du nouveau, en fait.
Alors, vous avez signé un calendrier 2025 où vous photographiez les arbres remarquables.
Oui, c'était l'année dernière.
Oui, donc les arbres remarquables. Aujourd'hui, il y a même une, on va dire un label arbre remarquable. Vous, ce n'est pas du tout ça. C'est de voir des arbres qui sortent de l'ordinaire de par leur format, leur stature, leur envergure.
Les arbres, en fait, pour moi, c'est souvent un arbre, il a un moment de beauté, en fait. Il est beau pendant une semaine ou même des fois pendant une minute, selon la lumière. Mais c'est un peu ça, plutôt, la démarche que j'avais. C'est à quel moment cet arbre, il dit le plus, il me parle le plus, quoi. Donc, c'était un peu ça, la démarche. Et puis, bon, derrière l'arbre, il y a le paysage, il y a tout le côté nature aussi qui est là. Mais c'est vraiment ça... Voilà, un arbre, il nous parle aussi, quoi. Enfin, c'est un peu ésotérique, là, ce que je dis, mais...
Non, mais on entend, bien sûr.
Il y a un petit dialogue, quand même, qui se fait.
Il est très, très ancré.
Souvent, quand je fais de la photo, je reste assez longtemps auprès d'un arbre, auprès de mon arbre, entre guillemets. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe, quoi.
Il y a une énergie. Ils sont très ancrés, les arbres, dans la terre. Ils cherchent leurs racines. Et je pense qu'effectivement, ce dont on peut avoir besoin, c'est souvent, justement, ces moments de méditation. On pense s'élever, mais en fait... Inversement, je pense qu'il faut s'ancrer.
Oui.
Et l'arbre est un petit peu le totem parfait pour cela. Alors, l'arbre, on entend, bon, vous pouvez effectivement prendre votre temps, mais un arbre, ça reste quand même statique, même si évidemment la lumière et les feuilles et le feuillage, ça bouge. Et cette année, la difficulté supplémentaire, c'est la faune de la forêt de la Robertsau et des bords de l'île également. On imagine, on pense aux cygnes. Vous avez déjà signé un livre avec un cygne magnifique dans la neige, un livre qui s'appelle Strasbourg, signé nature. Et vous avez là, c'est encore une autre difficulté, une autre démarche de saisir ce moment où l'animal, en fait, s'offre à vous, se laisse photographier.
C'est plus souvent de l'affût, en fait. Je fais du repérage, bien sûr. Il faut connaître un peu les espèces et leurs habitudes. Donc, je fais d'abord du repérage, en général. C'est assez rare, sauf les cygnes, bien sûr, qui est une espèce assez... pas trop farouche, bien qu'elle puisse être assez agressive.
Oui,
aussi.
C'est ça.
Mais je veux dire, c'est pas trop difficile de faire une photo de cygne. Par contre, un héron, un martin pêcheur, un pic, dès qu'il nous voit, il s'envole. Donc, il faut repérer des endroits favorables à la prise de vue. Et après, je construis des petits affûts. Enfin, je construis, c'est un grand mot. J'ai quelques toiles de camouflage et je me planque, je m'efface. Ce que je disais au début, j'essaie de m'effacer, en fait, de plus être là, en tout cas pour les animaux. Et c'est là qu'on peut faire des images et qu'on peut capter des scènes intéressantes, quoi. Une fois que l'animal ne sait pas qu'on est là, en fait. Donc, on est là, on est lié, mais on n'y est pas non plus pour lui, quoi. Donc, c'est un moment aussi...
Alors, des images qu'on peut retrouver dans votre calendrier 2026, Bernard Hirmann. En fin d'interview, vous donnerez les points de vente où on peut le trouver pour les gens que ça intéresse. Mais moi, j'aurais quand même... On va parler un petit peu de magie. On parle des animaux, et là en l'occurrence, des oiseaux de la Robertsau. Un moment magique que vous avez su capter ou que vous avez peut-être vécu, que vous n'avez peut-être même pas réussi à mettre sur la pellicule, mais un moment magique que vous allez nous offrir là, aujourd'hui.
Un oiseau que je suis beaucoup à Forêt de la Robertsau, c'est le martin pêcheur, qui est un oiseau qui fait, je sais pas, 10-15 cm. Et j'y vais vraiment régulièrement pour en voir et pour en photographier. Et donc c'est une image que je n'ai pas faite. Une année, j'ai fait, je crois, une centaine d'heures d'affût pour... Quand le martin pêcheur fait plusieurs nichées et quand les petits sortent du nid, ils sont déjà, ils sont bleu éclatant, orange, ils sont d'une couleur magnifique. Et la photo dont je rêve depuis des années, c'est un peu d'avoir plusieurs petits martins pêcheurs qui viennent de sortir du nid sur une branche. Et en fait, j'ai fait j'y suis allé plusieurs jours de suite, du matin jusqu'au soir, et j'ai pas réussi à faire la photo parce qu'en fait, ils étaient très éparpillés. Il y en avait un par-ci, un par-là, et donc ça a rien donné de bien. Après, il y a plein de...
Vous n'avez pas eu la photo, mais vous avez vécu le moment.
Voilà, mais j'étais dans leur...
Dans leur intimité,
quoi. Et sans qu'ils sachent que je sois là. C'est un peu ce que je disais déjà avant. C'est un peu toujours ça, c'est d'être l'homme invisible, en fait, dans la forêt, quoi. Donc, j'essaie toujours de me rendre invisible.
Alors, c'est une question que je me pose souvent, pour un photographe, de saisir ce moment un peu unique. Pour vous, c'est... l'instantanéité, ça veut dire que c'est là, maintenant, c'est ce moment que vous vivez et que vous offrez, ou alors est-ce que justement c'est une façon de graver un petit peu dans le marbre et de le rendre à l'éternité, ce moment magique de vie, ces millions de moments magiques sur Terre permet de rester à l'infini, celui que vous avez su capter. On part sur quelque chose de philosophique, vous avez 4 heures.
Oui, c'est capter l'instant, oui, bien sûr, il y a ça, c'est toujours, c'est ce que, être spectateur de la beauté du monde, quoi, qui s'exprime, et souvent c'est, par exemple, la couverture du calendrier, la grande aigrette, là, qui on dirait un ange,
qui déploie
ses ailes, mais c'est... Souvent, les oiseaux sont statiques, en fait, et en photo, bon, ça peut faire une belle photo si le décor est beau, mais c'est quand ils sont actifs et qui... Donc, l'aigrette a une façon, par exemple, assez particulière de pêcher. Elle fait plein de mouvements un peu bizarres pour effaroucher le poisson, et quand le poisson sort de sa cachette, c'est là qu'elle le chope. Et donc, elle a des fois des poses complètement tordues ou... et donc, voilà, c'est un peu ces instants-là qu'on recherche, quoi, en fait, quand on fait de la photographie. Après, il y a quelque chose de magique dans ça. Alors, je ne sais pas pourquoi ça... Je pense que ça, c'est aussi montrer... l'idée de faire des photos et de les montrer, c'est de les partager, c'est aussi de dire... Tout ça, ça nous entoure et c'est juste à côté... Enfin, la forêt de la Roberceau, c'est vraiment quand même... Je suis toujours étonné, des fois, je ne suis pas tout seul, mais... Il y a pas beaucoup, il y a des fois beaucoup de monde, mais des fois il y a quasiment personne. Je dis, il y a 500 000 de gens qui habitent à côté de ce bel endroit, et il y a tellement peu de gens qui viennent en profiter, entre guillemets, ou des fois donc la forêt, c'est très bien quand elle est au calme aussi, mais des fois je suis surpris par le peu d'intérêt et aussi le peu de connaissances qu'on a de ce milieu naturel, quoi. Les gens, quand je dis qu'il y a du martin pêcheur, les gens ils me croient pas, en fait, parce que quand je montre comment c'est, ils pensent pas qu'un oiseau, ils pensent que c'est un oiseau exotique, et même quand je leur montre les photos, il les a fait ailleurs, ces photos, c'est pas possible. Ça n'existe pas, ce truc.
Mais vous, il y a quelque chose aussi de l'ordre, enfin, vous êtes coprésident de Cynbus, très engagé aujourd'hui dans une démarche écologique, en fait, j'allais dire presque de bon sens. Ça aussi, c'est ce qui motive votre envie de photographier la nature.
Oui, montrer, c'est aussi donner envie de protéger, bien sûr. Bien sûr, il y a cette démarche-là aussi qui vient, qui n'est pas forcément présente au début. Quand j'ai commencé à faire de la photo, c'était plus l'instinct de chasseur que vous disiez au début, mais petit à petit, on devient plus un contemplatif et on a envie de protéger, de faire aimer et de faire connaître. Ouais, il y a cet aspect-là, bien sûr. Après, ça dépasse aussi la photo. Hein. Ça peut être un engagement sur d'autres sujets plus durs, entre guillemets. Mais, mais c'est vrai que la planète ne va pas bien et que voilà, c'est aussi une façon de... il y a l'engagement militant, mais la photo, c'est aussi une façon enfin, la démarche artistique est aussi quelque chose de, pas de militante, mais c'est aussi, je pense que c'est aussi porteur auprès des gens pour faire évoluer les comportements et...
De se rendre compte de ce qui est à côté de chez nous, qu'on peut en prendre soin tous ensemble.
Oui, c'est un peu ça aussi.
Alors, pour clore cette interview, je vais juste vous demander, ça ce sera pour les auditeurs qui sont amateurs de photos, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel déjà numérique, argentique?
Alors, je suis passé au numérique il y a maintenant quelques années.
C'est quand même plus facile,
c'est vrai qu'il y a quand même un confort. On voit tout de suite. si. Avant, il fallait déposer les diapos chez Meyer-Werner et attendre une semaine pour que la photo est nette.
Oui, mais cette attente, elle était bonne
mais
aussi.
Mais oui, ça avait aussi son charme. Ouais. Et d'ailleurs, il y a des gens qui sont restés à l'argentique. Moi, je suis passé au numérique. J'ai du Canon. Hein, je suis équipé en Canon. Et je n'ai pas un très gros téléobjectif. J'ai qu'un 70-200. Enfin, pour les spécialistes, c'est pas énorme. En général, les gens ont plutôt un 150-600. Je mets de temps en temps un doubleur, mais moi, encore une fois, comme je fais de l'affût, j'aime bien être proche, en fait, aussi. Ouais, j'essaie d'être vraiment proche c'est peut-être un défaut, mais j'aime bien être au plus proche de ce que je photographie, quoi. Donc, j'ai pas un super télé. J'essaie plutôt de me faire oublier. Et voilà. Donc, mais bon, mon matos, il a déjà une dizaine d'années. Il commence à être... pas dépassé, parce que je fais toujours des bonnes photos avec, mais le matériel évolue très vite, et là, je suis plus trop l'évolution du matériel, parce qu'il faudrait racheter un nouveau boîtier tous les 2 ans pour être au...
Oui, et puis après qu'on s'est approprié un matériel aussi.
Et puis, puis j'en fais un peu moins quand même aussi qu'il y a quelques années aussi, hein, parce que je suis plus pris par par des choses plus militantes ou même le signe de Bussière, il y a tout un côté gestion aussi, et j'organise aussi des expos là-bas, donc voilà.
Alors, pour parler de votre travail, il y a également d'autres ouvrages hein, que vous avez édités, La Roberto, mais ça c'est plutôt du côté rue ou avec des archives. Vous avez ce fabuleux livre, merveilleux livre, Strasbourg signé Nature, La Roberto côté nature et la forêt de La Roberto, et les calendriers, dont cette nouvelle édition 2026, La Roberto signé Nature. Où est-ce qu'on peut trouver et vos livres et ce calendrier, parce que là on y arrive, hein, on arrive
alors
à la
fin aussi,
de l'année.
Alors là aussi je suis très Roberto, parce que, parce que la distribution, comme je fais tout moi-même, et la distribution, moi, le calendrier n'est en vente qu'à la Roberto, donc à la librairie La Parenthèse, et les bouquins aussi, hein, et aussi dans les bureaux de tabac du quartier, donc il y en a 3, et je vais commencer à le diffuser peut-être aussi au quartier des 15, mais le mieux c'est de se rendre à la Roberto. Sinon j'ai aussi un site internet où on peut commander en ligne et payer en ligne, et on peut se faire envoyer le calendrier aussi comme ça.
Bernard Herrmann, merci infiniment d'être passé nous voir pour nous parler de votre travail et puis de cette petite pause, j'allais dire presque enchantée, enchanteresse, en ces petits matins de novembre un petit peu friscounés. Voilà, on a pris un petit peu de poésie pour le reste de la semaine. Merci à vous.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.